Europe 1.
Quand les relations sont toxiques, elles provoquent des souffrances dont on peine parfois à retrouver l'origine exacte, le point de départ, ce jour où tout a changé. De façon insidieuse, certaines personnes ont pour seul but de manipuler, dominer et de finalement détruire. Jour après jour, la relation empoisonne celui qui en est victime et le manipulateur tisse sa toile. Les relations toxiques peuvent être aussi amicales, familiales, amoureuses ou encore professionnelles, mais elles sont toujours malsaines et destructrices. À quel moment devient-on otage d'une relation toxique? Comment vit-on sous emprise et comment s'en défaire? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Marie et de Brigitte. Elles ont été belles-filles et belles-mères. Tout aurait pu les éloigner, mais elles ont fini par comprendre qu'elles étaient toutes les deux victimes dans des relations toxiques presque parallèles. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus.
Bonjour.
Bonjour Olivier.
Bonjour Marie, comment allez-vous?
Très bien Olivier.
Bonjour Brigitte.
Marie et Brigitte disent toutes les deux avoir vécu sous l'emprise d'un pervers narcissique. Deux hommes, un père et son fils, qui ont eu les mêmes comportements destructeurs, comme une malédiction familiale qui semble se répéter.
On a un peu la même histoire quelque part, donc quand on se parle, ben voilà,
on
a un
bien.
Peu le même langage et on sait qu'on se comprend sans avoir d'a priori. Et puis ben, je pense qu'on on s'en traite quand même assez quoi.
Vous avez visiblement vécu sans trop le savoir, on va voir, sans le découvrir tout de suite, la même histoire avec deux hommes que vous qualifieriez. Comment est-ce que vous en parleriez de ces hommes? D'abord Marie, comment est-ce que vous parleriez de votre ex-compagnon?
Un homme que j'ai beaucoup aimé assez rapidement, que j'ai cherché à comprendre, que j'ai excusé, que je veux fuir maintenant. Voilà. Il a dévoilé sa vraie personnalité. Au fur et à mesure de la relation, avec une volonté machiavélique de détruire. Devant nos amis, j'avais droit aux plus beaux compliments. T'es la plus belle, t'es la bleue. Et le retour à la maison était toujours bien différent. Des insultes, il se fermait assez. Très, très rapidement au retour à la maison. Et c'est ça, en fait, qui est très difficile, c'est qu'on est toujours entre le chaud et le froid.
Sous tension.
Donc on cherche, on se culpabilise parce qu'on se dit, mais s'il est comme ça à l'extérieur et s'il n'est pas comme ça, s'il est différent à la maison, c'est qu'on a dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu. On pose des questions, on essaye de comprendre et on se heurte à un mur, en fait.
Vous étiez très amoureuse l'une comme l'autre de vos conjoints. Hein.
Oui.
Brigitte, vous, est-ce que vous avez pu faire le parallèle avec votre propre histoire à l'époque?
Pas du tout. Je sais que ma relation était assez souvent très, très difficile. Et je ne savais pas mettre de mots dessus. Et c'est seulement quand on a parlé un petit peu justement avec ma belle-fille, qu'on a commencé à mettre des mots dessus, parce que quelque part, c'était vraiment un déni de tout ce que j'avais vécu comme chose grave, gravissime. C'est comme si j'avais oublié.
Oublié,
je ne sais pas si on peut dire volontairement, j'en sais rien, je ne sais pas l'expliquer. Et tout ça, c'était enfoui.
Déjà mère d'une petite fille, Marie a 43 ans lorsqu'elle tombe amoureuse d'un homme de 7 ans, son cadet, un homme charismatique et prévenant pour qui elle a un véritable coup de foudre. Mais quand elle s'installe chez lui, Marie le découvre sous un tout autre jour. L'homme a des principes et à la maison, il y a des règles à respecter.
J'ai très très vite senti que pour lui plaire, il fallait que je fasse ce qu'il avait décidé. la femme doit préparer à manger, doit s'occuper des enfants, doit s'occuper de lui. Et ça, ça monte crescendo. Et il arrivait à me convaincre en me parlant doucement du bien fondé de sa démarche à lui. En train de faire la cuisine, ah oui, mais c'est comme ça que tu devrais faire. Il est tout le temps sur vous. Vous avez des idées de plats. Ah oui, oui, c'est très bien, c'est une très bonne idée, ma chérie. C'est très bien, c'est très bien. Et puis, un quart d'heure après, ça change. Petit à petit, j'arrivais plus à être spontanée, en fait. Je me disais, est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Qu'est-ce que lui va dire? Qu'est-ce qu'il va en penser? Est-ce qu'il va être content?
Donc vous étiez dans le contrôle permanent?
Oui, tout le temps. Il était très, très autoritaire, en fait. C'était tu te tais et c'est tout. Tu écoutes ce que je dis. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est moi qui ai raison. C'était des injonctions comme ça. Je me dis, si je ne fais pas comme lui me conseille de le faire, il me quittera. Donc je mets les bouchées doubles. Je me retrouve au fourneau midi et soir. Je fais les courses. J'essaye de devenir une excellente mère de famille. Et j'essaye d'être parfaite. Alors, j'essaye d'être parfaite.
Malgré cette tension permanente, Marie est très amoureuse. Lorsqu'elle est enceinte, quelques mois plus tard, elle pense que son rôle de mère contribuera à équilibrer leur relation. Mais ni la grossesse, ni la naissance du bébé en 2014 n'apaisent son compagnon. L'homme se focalise sur leur fils et continue de la dénigrer.
Il se levait la nuit en même temps que moi, donc il était à côté de moi et regardait comment je donnais le sein. Je lui disais plusieurs fois, mais c'est pas la peine de se lever, je me lève, repose-toi. Et me dire, oh non, c'est mon fils. Donc tout le temps à surveiller ce que je devais faire, tout le temps à être de plus en plus, en fait, de plus en plus sur mon dos, en fait. T'es pas à la hauteur, t'es pas une bonne mère, tu sais rien faire. Je perds mes repères de maman. Tout ce que je peux mettre en place, tout ce que je peux dire, c'est contesté.
À aucun moment, vous ne vous dites que ce comportement-là est anormal.
Si je me le dis, mais j'essaye aussi de discuter avec lui, de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu me parles comme ça. Et les réponses qu'il me donne, c'est fais ce qu'il y a à faire et fais-le bien. Je dis, mais faire quoi de plus? Fais-le bien. Donc moi, je suis encore amoureuse, j'y crois toujours. J'ai un enfant en plus. J'ai cette famille. Je considère que tout est de ma faute, en fait. C'est que je n'arrive pas à être comme il veut que je sois, en fait. J'arrive pas à être à la hauteur, en fait, de ce qu'il me demande.
En lui faisant perdre tous ses repères, l'homme isole de plus en plus Marie. Il joue sur sa culpabilité, lui reprochant la moindre liberté, la moindre sortie. Marie s'enferme peu à peu chez elle, multiplie les arrêts maladie et finit par rentrer en dépression. Jusqu'à ce jour de 2015 où elle s'absente quelques heures en laissant son compagnon avec leur fils à la maison. Elle reçoit alors un message sur son téléphone portable, accompagné d'une photo.
C'est une photo d'une gélule qui est sur la moquette. Et le texte, c'est « Je suis en train de jouer avec mon fils et je vois cet antidépresseur que tu as laissé sous le lit. Heureusement, je l'ai trouvé parce qu'il aurait pu le manger. » Donc je l'appelle. Je lui dis, mais j'ai pas pu faire ça, c'est pas possible, parce que je suis très vigilante. Donc je rentre et je lui dis, mais je suis persuadée que c'est toi, en fait, qui l'a fait, ça. Il m'a regardé avec un sourire ironique et il est reparti. Donc, il convoque la gendarmerie pour signaler une information préoccupante par rapport à notre fils. Il fait appel aussi à la protection de l'enfance. Donc, je me retrouve convoquée et devant une assistante sociale et une péricultrice qui m'explique que je suis là parce que une personne anonyme est venue pour signaler, encore une fois, une information préoccupante. Quelques temps après, je reçois un courrier de son avocat qui dit là clairement que je suis dépressive depuis que je suis enceinte, que mon travail ne me permet pas d'élever un enfant en bas âge, qu'il n'a pas confiance de me laisser notre fils dans cet état-là. Tout est dénigré, en fait. Tout est... Il y a une réelle volonté de détruire.
Alors, il y a un événement qui va marquer la rupture. C'est la découverte d'un cancer.
Le diagnostic de ma maladie se fait à ce moment-là, en fait, où moi, autopalpation, je sens une boule. La date de l'opération est fixée.
Quel type d'opération on doit vous faire ?
Une mastectomie. On enlève le sein, en fait.
D'accord. Ça, vous lui annoncez ?
Ça, je lui annonce. Et là, il retourne la situation en me disant « Mais je n'entrerai pas dans ton jeu. Tu ne me manipuleras pas. » Il me dit que je le fais chier avec mon cancer, qu'il en a marre, que c'est plus possible, que c'est définitivement terminé.
Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous reprenez le contrôle, en fait ?
Oui, je me réveille parce que là, il y a une réalité qui devient plus importante, en fait. Là, je plonge dans l'enfer. Je rentre d'hospitalisation. Je le sentais très énervé, très excédé. Notre fils n'était pas bien, fiévreux, et je le prends dans mes bras, il se serre contre moi. J'ai senti une violence monter en lui. Il m'a arraché mon fils des bras. J'avais un bras qui était, suite à l'opération, qui était complètement immobilisé. Il m'a tiré par le bras pour me mettre à la porte en me hurlant dessus, en me disant qu'il en avait marre de moi, que j'ai été qu'une conne, qu'encore une fois, je le mettais en colère, qu'il fallait que j'arrête. Et je lui ai demandé plusieurs fois de me lâcher, parce qu'il me faisait mal. Il n'a rien voulu entendre et j'ai dû le mordre. Et là, il m'a jeté violemment dehors devant notre fils. Et je suis allée voir la gendarmerie pour leur expliquer. Et ils m'ont dit que c'était moi qui avais eu l'acte de violence parce que j'avais mordu. Et c'est une femme gendarme qui m'a accueillie. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut c'était de la légitime défense. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que j'arrive avec un bleu, du sang. Et elle m'a répondu, mais vous savez, des femmes comme vous, il y en a plein.
Mise à la porte, Marie retourne vivre chez sa mère et partage la garde de son fils avec son ex-compagnon. Mais surtout, elle se rapproche de Brigitte, sa belle-mère, avec qui elle a de longues discussions pour tenter de comprendre le tempérament destructeur de son ex-compagnon. Les deux femmes réalisent alors que leur histoire se ressemble beaucoup et que le comportement du fils rappelle étrangement celui du père, l'ex-mari de Brigitte.
On va marcher un petit peu, non ?
Un rapprochement qui n'est pas du tout du goût de l'ex-compagnon de Marie.
Mon fils me demandait de rompre les relations avec ma belle-fille en me disant que, voilà, qu'il fallait que je prenne parti pour l'un ou pour l'autre. Et moi, je disais, mais non, c'est pas possible, c'est... Voilà. Et là, il m'a dit, tu as choisi, donc voilà, on ne se reverra plus.
On ne se reverra plus ?
On ne se reverra plus. Et mon ex-mari m'avait demandé aussi d'arrêter de voir Marie. Et moi, je lui ai dit, mais il n'en est pas question.
C'est très violent.
C'est extrêmement violent. D'autant plus que je pense avoir donné vraiment de l'amour à mes enfants. Pour moi, la famille, c'est extrêmement important. Et donc, c'est vraiment grâce à Marie, aujourd'hui, que je vois mon petit-fils grandir et que j'ai l'impression d'avoir une famille.
Comment vous expliquez-vous le comportement de votre fils vis-à-vis de Marie?
Le comportement de mon fils, selon moi, exactement calqué sur celui de son père. C'est-à-dire que je me souviens, j'étais toute seule pour sortir les enfants, j'étais toute seule pour les élever, j'étais toute seule pour les emmener écouter de la musique, faire du vélo.
Votre fils a vu ça?
Bien sûr.
Et donc on peut imaginer que pour cet homme, dans sa tête, la femme
a cette fonction-là.
A cette fonction de faire à manger, remplir le frigo, s'occuper des enfants.
Selon moi, ni l'un ni l'autre ne peuvent comprendre une relation quelconque d'amour ou de rapprochement comme on peut l'avoir en ce sens. Non. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Donc je pense qu'ils sont incapables d'aimer totalement, oui, ça c'est clair.
De son côté, Brigitte me confie avoir divorcé au bout de 17 ans de mariage, épuisée par les violentes disputes qui rythmaient sa vie de couple. Malgré cela, elle est pourtant retournée vivre auprès de son ex-mari parce qu'elle ne pouvait se résoudre à couper totalement les ponts avec le père de ses enfants. Ce sont finalement les épreuves vécues par sa belle-fille qui lui ont ouvert les yeux sur sa propre histoire et qui l'ont décidé à quitter définitivement son ex-mari.
Mon ex-mari, par exemple, disait des petites choses contre moi, à mes enfants. Donc mes enfants me regardaient comme une bête curieuse, comme si j'étais une mauvaise mère. Ils me rabaissaient continuellement. C'était des critiques, par exemple, sur mon physique, des petites choses. Et ça se traduit aussi par un changement de voix, un changement de comportement, quelque chose de violent. Et même si moi, je suis quelqu'un, je ne me laisse pas faire, mais j'avais peur. J'avais très, très souvent peur. Et je me souviens de mes enfants. Mes enfants avaient peur aussi, bien sûr. Ça, c'est clair. C'est quelque chose de très difficile à expliquer. C'est une attitude, on peut se moquer de quelqu'un simplement par le regard. Ouais. On peut se moquer de quelqu'un par un petit mot. On peut se moquer de quelqu'un par un déni. On peut la rabaisser de toutes les façons possibles. Mmh. On n'est pas obligé de donner un coup de poing. C'est quelque chose de psychologique.
Cette relation que vous avez aujourd'hui avec votre belle-fille, est-ce qu'elle est réparatrice?
Certainement, parce que c'est vraiment la personne avec qui je peux parler de ce qui m'est arrivé et qui me comprend. Après, pour moi, c'est aussi destructeur parce que quand elle me parle de mon fils et qu'elle me dit les violences que mon fils lui a fait vivre, c'est insupportable. Et aujourd'hui, mon plus grand désespoir, c'est de penser que mon petit-fils pourrait subir le même système de comportement que mon fils. C'est ça ma plus grande crainte. Ouais. Et c'est ce qui m'empêche encore aujourd'hui de dormir.
Diane connaît Marie depuis plus de 20 ans. Elle a assisté au début, puis à l'évolution de la relation de Marie avec son ex-compagnon.
C'est vrai que je t'ai senti vraiment à un moment donné pas bien du tout. Mais bon, c'était tout à fait compréhensible entre la maladie, entre le fait de se relever de tout ça.
Je me suis perdue.
Oui.
Et vraiment, 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 vraiment. Et c'est ça qui est dur aussi à accepter.
Au fil des mois, Diane a vu son amie se renfermer progressivement sur elle-même.
Moi, en tant qu'amie, en étant à l'extérieur, je trouvais ça, pour moi, c'est pas ça l'amour, en fait. Marie, qui n'est pas du tout une femme casanière, pas du tout. Là, elle restait à la maison, elle faisait le ménage, elle briquait, elle arrivait à faire à manger. Enfin, je la reconnaissais pas, quoi.
Vous l'avez vue se transformer, cette femme.
Oui, et elle était dans une spirale, réellement, en se disant je n'existe plus. Et elle était incapable à ce moment-là de m'entendre. J'avais un sentiment d'impuissance, en me disant je ne peux qu'écouter.
Ouais.
Elle était dans un processus qui faisait que il avait tellement d'emprise et de je vais pas dire d'humiliation parce que c'est un mot peut-être très très fort, mais c'était vraiment il la rabaissait. Le centre c'était lui,
Vous vous rendiez compte de ça ?
Diane m'en parlait, elle me dit « sors-le de ta tête, sors-le de ta tête, sors-le de ta tête. » Et c'était impossible.
Et avec moi, il était toujours très bien, très gentil, très très, très bien, très agréable.
À votre avis, il faisait attention à ça ?
Oui, bien sûr, oui. Et je me disais, mais comment elle fait pour supporter ça ? Moi, j'aurais tout claqué et je serais partie. Hein. Mais moi, avec à l'aspect extérieur, on dit ça. Je suis bien consciente qu'elle était dans un carcan et qu'elle ne pouvait pas faire ça. Et je me rappelle la période avant qu'elle ne parte, hein, où elle m'a parlé de moments où elle avait presque plus envie de vivre. Quoi. Je me rappelle vraiment bien de ce moment-là. Et vraiment, j'ai eu peur, là. Et quand elle a pris cette décision de partir, enfin, de se séparer, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, bon, elle prend la bonne décision, là.
Cela fait désormais un peu plus d'un an que Marie a quitté son compagnon. Avec Brigitte, c'est ensemble que belle-mère et belle-fille consultent à Anne-Laure, une thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences psychologiques.
Il y a quelques temps, on se connaît. Je voulais faire un petit point avec l'une et l'autre sur comment vous allez depuis un an et demi qu'on s'est rencontrés pour la première fois.
Grâce à elle, les deux femmes ont pu mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu et commencer à comprendre le processus dont elles ont été victimes.
La honte a disparu, le sentiment de culpabilité s'effrite. Mm-hmm. Je reprends confiance en moi, en fait, comme j'étais avant.
Ça se manifeste comment ?
Par des envies de bouger, de faire des choses avec ou sans mes enfants. De voir mes amis, de m'investir dans mon travail. Voilà, je reprends ma vie en main.
Ce qui fait que la spontanéité reviendrait ?
Oui, la spontanéité revient, oui.
Sans calcul ? Non. Sans se demander si on a le droit ?
Beaucoup moins. En fait, la question est toujours là, je me la pose, et je me demande aussi ce qu'il pourrait en penser, ce qu'il pourrait dire de ça. Et après, ça, c'est une pensée qui disparaît et j'ai envie, je le fais.
Vous le faites. Vous m'avez l'air fatiguée, Brigitte. Hein. Comment allez-vous ?
Je dirais pas que la spontanéité est revenue. Je dirais que je suis encore et toujours dans le regard que je porte aux autres. Et moi, au travers de ça, aujourd'hui, je n'existe toujours pas. Non, ça c'est clair. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur ce plan-là. Ça sera comme ça, à mon avis, jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Il faudra que je fasse avec.
Pour Anne-Laure, Marie et Brigitte ont bien été toutes les deux victimes de ce que l'on appelle des pervers narcissiques. Un terme, selon elle, un peu à la mode, que les médias utilisent souvent abusivement, et en particulier dans les conflits conjugaux.
On parle beaucoup trop des pervers narcissiques, on le met beaucoup trop en avant. Qu'on parle de personnes qui sont auteurs de violences, qu'on parle de victimes de violences, qu'on parle de personnalités toxiques, qu'on parle de comportements dangereux ou dysfonctionnels, oui. Qu'on parle de pervers narcissiques, il faudrait le réserver à une certaine catégorie de la population qui est heureusement moins importante qu'aujourd'hui, on le lit partout.
Mais alors, donc, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un individu qui est pervers narcissique ?
Il s'approprie complètement la personne. Un pervers narcissique fonctionne comme un enfant tyrannique, capricieux et insupportable. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de lui est son monde, ça lui appartient. On n'a pas le droit d'y rentrer, on n'a pas le droit d'y toucher et c'est son jouet. Et donc il peut même casser son jouet. Puisque la seule quête qu'il a tout au long de sa vie, c'est le pouvoir. Et c'est dominer. Et c'est bien ce qui est arrivé à Marie, c'est bien ce qui est arrivé à Brigitte. Elles se sont fait dominer petit à petit sans s'en rendre compte.
Est-ce que le pervers narcissique, finalement, aime ?
Non. Le pervers narcissique n'aime pas. Il possède.
Est-ce qu'il y a un profil particulier de femmes qui vont plus tomber dans ce genre de piège ?
Toutes sont des personnes qui sont dans la bienveillance. Qui sont dans l'écoute de l'autre. Et souvent, très souvent, ce sont des personnes, au moment où elles vont rencontrer le pervers narcissique, sont des personnes qui sont dans des situations de fragilité.
Dans le cas de l'ex-compagnon de Marie, est-ce qu'il a pu être influencé par son père et reproduire le même schéma ?
Donc, il a absorbé le schéma. Très souvent, je rencontre des personnes qui ont été avec un pervers narcissique et qui s'inquiètent pour leurs enfants. Et quand je leur dis attention, attention au comportement que vous allez avoir avec votre enfant, parce que c'est vous qui allez leur permettre en grande partie de ne pas tomber dans cette perversion narcissique, c'est très difficile pour elles de le comprendre parce que ça va les obliger à se battre. Brigitte et Marie, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai dans leur histoire l'intime conviction que le fils de Brigitte, quelque part, a voulu se venger de son père en disant « je serai plus fort que toi, j'aurai une femme et elle ne me quittera pas, j'aurai un enfant, mais un enfant, une chose, quoi, qui va m'appartenir ». Sauf qu'avec Marie, il a été confronté pour lui, dans sa structure de pervers narcissique, à une énorme difficulté, c'est que Marie, elle ne s'est pas laissée détruire.
Marie se reconnaît bien dans les propos d'Anne-Laure concernant les risques d'une telle filiation. Elle mène aujourd'hui deux batailles, pour son fils et contre sa maladie. Je sens bien qu'elle est encore fragile, mais que désormais elle le sait, et c'est ce qui lui permet d'avancer.
Aujourd'hui, ma principale préoccupation, c'est de faire en sorte que ce schéma qui se répète s'arrête à lui, véritablement. Que mon fils ne soit pas impacté par ça. Et c'est d'être extrêmement
vigilante.
Ce qui fait de vous qui est la nouvelle Marie aujourd'hui?
Une maman avant toute chose, fière de ses enfants, de ce qu'elle fait avec eux. Une femme qui a envie de vivre.
Et de passer à autre chose.
Pour l'instant, le fils de Marie est en garde alternée. Dans quelques semaines, elle va devoir repasser devant un juge et se confronter une nouvelle fois à son ex-compagnon afin de statuer définitivement sur la garde de l'enfant. Marie a aussi déposé plainte pour violence conjugale et dans l'attente du procès, être reconnue comme victime est déjà pour elle une forme de victoire. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Kevin Ousty. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.